Bonjour, ça me fait plaisir d'être devant vous, de vous voir, d'en voir certains. Vous êtes les portes, comment on va dire ça, porte-vision de ceux qu'on ne voit pas. Mais bienvenue aussi à vous qui êtes chez vous. C'est vrai, c'est toujours un défi de partager la parole de Dieu, mais en même temps, c'est tellement une joie de pouvoir le faire. Et quand je vous regarde comme ça, je me dis, mais l'Église, c'est quand même quelque chose de génial. Parce que les paroles que Risa vient de partager tout à l'heure, la fidélité de Dieu, on est tous là, on est des gens tous imparfaits, désolé de vous le dire, mais c'est vrai, on est tous imparfaits, des gens ordinaires, imparfaits, mais là au milieu, il y a la fidélité de Dieu. Il y a ce Dieu extraordinaire qui fait des œuvres magnifiques et qui utilise son Église, qui l'utilise. Voilà. Tel qu'on est, on est imparfait, mais il nous utilise. L'Église, c'est le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu pour nous, pour nos vies, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Et on l'entend souvent ces temps, à son retour, le Seigneur vient rechercher son épouse, vient rechercher une Église prête, prête pour son retour, justement. Et on est dans ce temps d'attente, on est dans ce temps où on attend le retour du Seigneur. Mais ce n'est pas une attente simplement où on reste passif, c'est une attente active. L'Église, c'est un corps vivant. C'est quelque chose où il se passe vraiment quelque chose. Et ce matin, j'aimerais un petit peu qu'on puisse se rappeler ce qu'est l'Église, ce qu'elle est appelée à être, ce qu'elle est appelée à vivre. Et je vais le faire à partir de l'Évangile de Jean. Dans les derniers moments où Jésus, il est avec ses disciples, Jésus nous montre vraiment qu'il porte le fardeau de l'Église qui allait naître. Et il le partageait à ses disciples, en tout cas il essayait de leur partager parce qu'il y a bien des choses qu'ils ne comprenaient pas à ce moment-là. Il leur disait des paroles, puis les disciples ils étaient là, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et on va voir ça dans l'Évangile de Jean, c'est les chapitres 13 à 17 qu'on va survoler. En résumé, Jésus vient de prendre le dernier repas avec ses disciples et il leur parle, il leur dit, voilà, c'est le moment arrive où je vais vous laisser. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir avec moi. Il va y avoir une espèce d'ambiance bizarre, il va y avoir une ambiance lourde. Il y a un truc qui se prépare là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et Jésus leur dit, mais moi, je ne vous abandonne pas, mais il faut ce qui va se passer pour que le plan de Dieu pour l'humanité s'accomplisse. Et on va prendre quelques extraits de ces chapitres, quelques extraits qui m'ont flashé. Alors, on pourrait lire tous les chapitres parce que ces chapitres, ils sont tellement riches de ce que Jésus a à nous dire. Mais je vais simplement prendre quelques versets. Et j'aimerais, quand on reprend en lisant ces versets, que vous pensiez à l'Église d'aujourd'hui. C'est vrai, Jésus parlait à ses disciples, mais au travers d'eux, il parlait de l'Église naissante, il parlait de l'Église d'aujourd'hui, 21 mars 2021, à Lacho. Il parlait de cette Église aussi. Et rappelons-nous que l'Église, c'est moi, c'est toi. Dès le moment où on accepte Jésus dans notre vie, on fait partie de cette Église. On est membre de cette Église. On est un des membres de cette Église. Le premier verset que j'aimerais partager, c'est Jean 13, le verset 34. Alors, il y a beaucoup de ces versets qu'on connaît, mais ils sont tellement importants. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous. Aimez-vous, mais comme je vous ai aimé. Et on verra un peu plus tard comment Jésus nous a aimés. Et il y a une conséquence à aimer les autres comme Christ nous a aimés. Il y a une conséquence. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. On peut faire de la pub, on peut faire plein de trucs, mais finalement, c'est notre relation à Dieu, notre relation entre nous au travers du Seigneur qui va changer les choses. Un autre verset, c'est au chapitre 14, le verset 6. Là, c'est Thomas qui est totalement perdu parce que il aimerait savoir comment aller où Jésus va. Il lui dit, mais Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Comment est-ce que tu veux qu'on sache comment venir vers toi? Quel est le chemin? Et Jésus lui répond au verset 6. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est moi qui suis le chemin. C'est le seul chemin. Il n'y a pas 36 000. C'est le seul chemin. C'est une vérité qui est là, qui est claire, que Jésus nous donne. Je suis le chemin, le seul chemin qui conduit là où je vais, qui conduit au Père. Dans le même chapitre, au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. On dit, waouh, je peux demander plein de trucs. Et on va voir que finalement, tout est lié. Et si Jésus nous parle de ça, c'est en lien avec tout ce qu'il dit. Parce que ce lien d'amour qu'on a les uns pour les autres, cette unité qu'il nous appelle à avoir, ça nous pousse à demander des choses aussi dans le sens de ce que Jésus veut pour l'Église. Et on reparlera de la prière un peu plus tard, parce qu'à un moment donné, Jésus lui-même prie. Et au verset 26 du même chapitre 14, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Il est en train de dire à ses disciples, mais vous ne serez pas orphelins. Vous ne serez pas orphelins. Vous n'allez pas être laissés à vous-même. Il le dit à l'Église d'aujourd'hui, vous n'êtes pas orphelins, vous n'êtes pas laissés à vous-même. Le Saint-Esprit est là. Mon esprit est là, au milieu de vous. Et il continue avec le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Il ne se laisse pas effrayer. Je vous donne ma paix. On court après la paix. On a besoin de la paix. C'est quelque chose qu'il nous faut parce qu'on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas la paix. D'ailleurs, c'est un peu logique. Hein? C'est un peu le contraire. Que votre cœur ne se trouble pas. Il n'y a pas de quoi être troublé. Et pourtant, quand on regarde un petit peu la situation, ce qu'on peut vivre aujourd'hui, nous, mais le monde en général, on peut être troublé avec tout ce qui se passe. Et Jésus dit, non, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Il dit ça à ses disciples, alors qu'ils sont aussi dans un moment où ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ne comprennent pas. Mais je vous donne ma paix. Et ensuite, il vient le chapitre 15, où Jésus enseigne ses disciples au travers de l'image du cep et des sarments. Alors, je ne vais pas prendre tout ce texte, on le connaît. En tant qu'enfant de Dieu, on est tous en lien les uns avec les autres, mais au travers du cep, au travers de Jésus-Christ. C'est lui le cep, c'est lui la sève, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui veut nous donner ce dont on a besoin jour après jour. Et si on n'est pas rattaché à ce cep, on le sait, on n'est rien d'autre qu'une branche morte, une branche desséchée. On a besoin d'être attaché à Christ. Et au verset 9, il dit, du chapitre 15, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre de ce texte aujourd'hui, parce qu'on sait ce qui s'est passé juste après ce moment-là, où Jésus s'est donné en sacrifice pour nous. Quand il dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », et qu'il dit « vous êtes mes amis, vous êtes mes amis ». Je vous ai aimé, mais aimez-vous les uns les autres, jusqu'à donner votre vie pour vos amis. C'est ce qu'il nous dit. Et un peu plus loin, au verset 16, il nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. J'ai l'impression, au fur et à mesure qu'on avance dans ces chapitres, on avance dans l'intensité de ce que le Seigneur veut nous dire. C'est lui qui nous a choisis. Tout est de lui. Tout ce que je vis est de lui. Si je peux aimer autour de moi, si je peux aimer, c'est parce que lui m'a rempli de son amour. On va y revenir à tout ça. Et au chapitre 13, on va encore prendre un dernier texte, c'est les versets 13 et 14. Où Jésus dit, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand le défenseur sera venu. Si on se met à la place des disciples, ça devait être vraiment du patois. Ils ne devaient pas savoir de quoi Jésus parlait. Et pourtant, ce défenseur, il a été donné à l'Église. Il a été donné aux disciples à la Pentecôte. Et ce défenseur, s'il n'est pas au milieu de l'Église, l'Église est morte. C'est lui qui amène la vie, qui donne la vie, qui met la vie dans l'Église. Alors je disais au début, l'Église, c'est un corps vivant. C'est le corps vivant de Christ, l'épouse que Jésus vient rechercher. Et on peut se poser la question, mais où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Et c'est vrai, dans ce qu'on est en train de vivre, dans la réalité qu'on vit actuellement avec toutes les contraintes qu'on a, combien de personnes s'éloignent de l'Église par simple confort, en se disant, mais finalement, je m'en sors très bien sans avoir cette vie d'Église. Et partout, dans toutes les églises, on entend ce fameux un tiers des membres qu'on ne voit plus, dont on n'a plus vraiment de nouvelles. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est une réalité. Et je crois que dans ce qu'on est en train de vivre, le Seigneur veut nous montrer qu'on a vraiment besoin de lui. On ne va pas pouvoir vivre par nous-mêmes, par nos propres forces. Et ça m'amène à nous poser cette question, mais comment est-ce que je vis l'Église? C'est vrai, finalement, à la fin du culte, vous ferez le bilan. Ben, dimanche, c'était peut-être pas si mal. Le son, il était bon hein, pour la louange. L'équipe louange, ils ont choisi des chants qu'on connaissait, c'était bien. Dora, elle a fait sa présidence parfaitement. André, ben, lui, il n'a toujours pas mis de cravate. Ben, voilà, c'est comme ça. Et voilà, on fait le bilan, et puis on passe à autre chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, dans l'Église, on avait eu trois personnes qui étaient venues pour noter l'Église. Elles étaient venues avec leur petit calepin, elles avaient noté l'accueil, elles avaient noté le message, comment est-ce qu'il était, elles avaient noté l'ambiance de l'Église, un peu tout ce qui se vivait, la louange. En fait, c'était pour une émission qui se faisait, je crois que c'était sur Canal Alpha. Et voilà, on note l'église, et puis je me dis, on a quand même passé à autre chose depuis. Hein. C'est là que je me dis, mais oui, on avance. L'église avance. On réalise certaines choses. Mais l'église peut être un lieu de consommation, finalement. Où est-ce que je serai le mieux? Dans cette église-là, on met toutes ces coches-là où c'est bien, là c'est moins bien, bon, ce n'est pas forcément pour moi, peut-être celle-là. Et ça devient un lieu de consommation. Comme on va au ciné regarder un film, comme on va au concert. Ou est-ce que ma vie dans l'église, mon engagement dans l'église dépend de son organisation? Alors je vais à l'église le dimanche. Actuellement, pour certains, c'est même l'église qui vient chez vous, dans votre salon. On va peut-être mettre en place un programme bien étoffé avec des repas, surtout avec des repas communautaires pour favoriser l'unité dans l'église. On en rêve des repas communautaires. Et je ne dis pas que ça ne doit pas se faire du tout, hein. Je ne dis pas ça du tout. C'est des choses importantes dans la vie. Des sorties d'évangélisation, des soirées de louange, des soirées de guérison, des soirées de prière, des moments où on va visiter les aînés, où on va peut-être visiter les malades. Et puis, on a toute cette liste, on coche des petits vues dans les cases qui nous intéressent. Je veux dire, finalement, pas mal mon engagement, pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous? Est-ce que c'est vraiment la finalité de ce que l'Église a à vivre? Et puis finalement, je ne trouve pas forcément ma place dans le programme qui est proposé. Ça ne m'amène rien, j'en retire rien. Ça ne m'apporte rien. Et gentiment, je peux prendre de la distance. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, justement, dans cette réalité de l'Église avec les restrictions qu'on vit. Aujourd'hui, je crois que l'Église a un ennemi à combattre, un ennemi important, c'est peut-être pas le seul, mais il est important, c'est l'individualisme, l'isolement. C'est quelque chose qui nous est quelque part imposé par la société. On est connectés les uns aux autres par écran interposé, c'est tout. Mais heureusement qu'on peut l'être, hein, aussi. Parce que voilà, ce matin, si on est ensemble, c'est aussi grâce à ces écrans. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais quand je vois les différentes générations dans l'Église, quand je vois nos aînés, les contacts étroits qu'ils peuvent avoir, ils prennent des nouvelles les uns des autres, ils s'intéressent à la vie de l'autre, ils sont toujours à se téléphoner, à s'appeler, à se demander comment ça va. Et puis plus on descend dans les générations, plus je réalise qu'on s'isole, qu'on n'a plus le temps pour les autres, qu'on n'a plus... Ouais, tout va trop vite, on n'a plus le temps. Et finalement, la jeune génération, elle a été construite sur le moi-je, sur le moi, sur l'épanouissement personnel. C'est moi d'abord. Ce n'est pas quelque chose qu'ils se sont inventé ou qu'on peut leur reprocher. C'est ce que la société leur a donné, c'est ce qu'on leur a donné. Il y a tout le temps des articles sur les effets de cette pandémie actuellement autour de nous. Alors on voit les effets sur les aînés, où ils parlent beaucoup de la solitude, de ce lien aux autres qui leur manque. On a les personnes actives qui, elles, se posent des questions de leur avenir professionnel, de leur pouvoir d'achat qui risque de baisser, toutes ces choses-là. Et puis il y a les plus jeunes, mes sorties. Mon sport, ma dernière console, je n'ai pas pu aller acheter parce que les magasins étaient fermés. Mais on voit les ruées que ça amène dès que les magasins rouvrent. C'est des clichés, hein. C'est vraiment des clichés que je donne là. Et je ne vais pas dire que c'est tout le monde comme ça, mais il y a quelque chose dedans. Et si notre foi est vécue de cette manière-là, on devient des chrétiens consommateurs. On est des chrétiens consommateurs. Et on ne va pas pouvoir vivre cette unité dont Jésus parle. Cette unité de l'Église que Jésus veut. Alors, est-ce que c'est encore possible de vivre cette unité qui est décrite dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est décrite dans l'Évangile? Est-ce que c'est encore possible de la vivre aujourd'hui? En préparant ce message, j'ai lu la phrase suivante. La foi chrétienne sera toujours une foi qui se vit personnellement, mais pas individuellement. La foi, c'est quelque chose de... Ma foi, c'est ma foi. Ce n'est pas Thierry qui va pouvoir faire quelque chose pour vivre ma foi. Ce n'est pas lui qui va vivre ma foi. C'est moi qui dois vivre et développer ma foi. Mais elle ne se vit pas individuellement. Elle se vit en Église, elle se vit en communauté. On a besoin les uns des autres. Alors, on peut essayer de mettre en place un programme d'Église qui favorise l'unité entre les membres. On peut même faire attention de confier la communication pour que ça se passe bien à quelqu'un de formé pour ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Je le sais parce qu'on l'a vécu et je l'ai vécu plusieurs fois dans plusieurs situations où, en voulant faire des efforts, ce n'est pas ça qui change quelque chose. Finalement, on abandonne parce que ça ne change pas, ça ne mène pas à ce qu'on voudrait. Et je sais aussi que c'est inutile parce que ce n'est pas la façon de faire qui nous est présentée par l'Évangile, qui nous est présentée par la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on va vivre l'unité dans l'Église aujourd'hui? Je vais juste résumer. Les quelques passages qu'on a pris tout à l'heure. Aimez-vous comme Christ vous a aimé. Jésus, le seul chemin. La prière. L'enseignement. La confiance en Dieu. Quand il dit, je vous laisse ma paix. Être rattaché au CEP. Rattaché les uns aux autres au travers du CEP. Donner sa vie pour ses amis. Et c'est cette foi vécue personnellement qui va impacter la vie de l'Église. Et il y a un exemple génial dans la Bible. L'exemple d'une Église de 3000 personnes. 3000 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne se comprenaient pas parce qu'elles parlaient des langues différentes, qui avaient des coutumes, des façons de faire qui étaient totalement différentes parce qu'elles venaient du monde entier. C'est dans Acte 2. Acte 2, versets 42 à 47. C'est juste après que Pierre, que le Saint-Esprit est descendu, qu'il y a eu Pierre a parlé à la foule qui était là. Et juste après, il a dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. » Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À ce moment-là, ce n'était pas un programme qui avait été élaboré par les apôtres. Ce n'était pas lié au fait qu'ils ont pris du temps pour tisser des liens entre eux. Mais c'était l'élan de 3000 personnes qui était impacté par le Saint-Esprit. C'est ça qui a conduit au début de l'Église. Et c'est ce que l'Église devait vivre à ce moment-là. Alors si aujourd'hui on dit, ben voilà, c'est ce qu'ils vivaient, il faut qu'on vive exactement la même chose, ça ne va pas marcher. Parce qu'encore, c'est un programme qu'on va se mettre en place. C'est un programme qu'on va se mettre. Non, le Saint-Esprit agissait. Et ce qui est génial, c'est Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était ce que l'Église devait vivre à ce moment-là. Et c'est le Seigneur qui ajoutait. C'est le Seigneur qui faisait le reste. Et nous, aujourd'hui, ces deux choses, on peut les vivre. Le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous, et le Seigneur fait le reste. Si nous faisons ce que le Saint-Esprit nous montre, le Seigneur s'occupe du reste. Et c'est vrai qu'on a des défis. On se pose plein de questions. Comment est-ce qu'il faut qu'on fasse pour intégrer les jeunes dans la vie de l'Église, qui se sentent intégrés? Et on peut mettre des programmes en place. Mais si c'est des programmes simplement humains parce qu'on a étudié le truc, puis ça devrait marcher, peut-être. Peut-être. Mais si on est à l'écoute du Saint-Esprit et qu'on le laisse nous montrer, qu'est-ce qu'on doit faire? Lui fera le reste et il ajoutera. C'est un défi énorme et Jésus le savait. Quand il parlait à ses disciples, il savait que c'était un défi énorme. Et dans la suite de l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus prie. Jésus prie, il prie pour lui parce qu'il sait par où il va passer. Il prie pour ses disciples, il sait par où ils vont passer aussi. Mais ensuite, il prie pour l'Église. Il prie pour les futurs croyants, pour ceux qui viendront après. Donc, il prie pour toi, il prie pour moi. Mais on se dit, mais Jésus connaît parfaitement la volonté du Père. Pourquoi est-ce qu'il prie? Il sait que ce qu'il demande, c'est la volonté de Dieu. Il y a quelque chose de plus, hein, je crois. Je crois qu'au travers de sa prière, moi, je vois vraiment Jésus appeler la volonté du Père à se manifester sur la terre. Jésus sait quelle est la volonté de Dieu, mais il l'appelle, cette volonté de Dieu, à se manifester dans le concret, dans le visible de la terre. Et c'est vrai que quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu déranger le diable, il est venu déranger Satan. Et on le voit dans tout l'évangile et dans tous les messages que Florence nous a apportés, on voit Jésus qui agit et tout de suite derrière, le retour de manivelle. Le diable qui vient s'en mêler. Satan qui vient s'en mêler d'une manière ou d'une autre. Jésus qui marche sur les plates-bandes du diable, c'est ce qu'il est venu faire en venant sur cette terre. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Et là, Satan croyait qu'il avait vaincu, qu'il était vainqueur. Mais non, c'est Christ qui est vainqueur. Il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Mais il a fallu tout ce combat. Et aujourd'hui, on est encore dans ce temps où Satan est vaincu, mais il est encore là. Et Jésus savait qu'on aurait des défis à relever. Jésus savait que l'Église, ce ne serait pas simplement un petit oasis tranquille. Il le savait. Et on va lire cette prière. Et dans cette prière, Jésus il voit l'Église qui est en acte 2, cette Église quand on vient de lire ce qui s'est passé, cette Église qui s'est répandue, il voit l'Église qui a été persécutée, celle qui l'est aujourd'hui encore. Il voit l'Église ici à la Chaux-de-Fonds, avec ses difficultés, avec ses réalités. Et il prie. Jean 17, à partir du verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, donc pas pour les disciples seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Si on imagine cette prière pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, que tous soient un, c'est sa prière. Il insiste, Jésus. Jésus insiste dans cette prière. Que tous soient un, comme moi, je suis un avec toi, Père. Humainement, on n'y arrive pas. On le sait. C'est impossible. On voit tout de suite les défauts qui nous empêchent d'être unis à l'autre. On voit tout de suite ce qui va nous séparer. En Christ, on peut voir les choses différemment. Unis entre nous en Jésus, en Dieu, en le Saint-Esprit. Et c'est un témoignage au monde. C'est un témoignage au monde. Et Jésus, s'il a prié ça, il savait que l'Église ne tiendrait pas. Ne tiendrait pas sans cette unité dans le corps de Christ, au travers de lui. Et on le voit dans les églises qui sont persécutées, là où il y a des difficultés. Combien il y a d'unité? Combien il y a d'unité? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la solution pour tenir. Et si aujourd'hui l'Église est debout encore, elle a traversé des difficultés, elle a traversé des moments très difficiles depuis le début de l'Église. Mais si elle est là, c'est parce qu'il y a eu cette unité de l'Esprit. Et ce lien d'amour qu'on est appelé à développer, il dépendra vraiment de notre lien à Dieu, de notre lien à Jésus-Christ, de notre lien au Saint-Esprit. C'est lui qui veut nous guider, qui veut nous conduire. On a lu tout à l'heure, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donner sa vie pour ses amis, ce n'est pas simplement mourir pour eux. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça peut être ça, mais ce n'est pas ça que je vois là au travers de ça. Donner ma vie, c'est donner de ma vie, donner de moi, donner de ce que j'ai, de ce que je suis. Concrètement, tu vois quelqu'un dans le besoin. Alors, tu vas voir les responsables de l'Église, tu dis, il faudrait mettre au budget un poste aide de secours. Il faut que l'Église intervienne. Mais l'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. Et si le Saint-Esprit te montre cette situation, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Toi, en tant que membre de l'Église, moi, en tant que membre de l'Église, et ça m'a fait penser à ce texte de Matthieu 6 où Jésus dit « Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. » L'Église, c'est un lieu de vie où il se passe quelque chose, où ça bouge, où ça va dans tous les sens. Tu es avec quelqu'un de malade, tu vas prier pour cette personne. Tu vas l'aider peut-être. Tu vas aller faire ses courses. Peut-être tu as à cœur une personne, tu te dis, mais tiens, il y a longtemps que j'ai plus vu cette personne. Tu vas vouloir prendre des nouvelles de cette personne. Et c'est des choses qui se font, qui se vivent dans l'Église. Et c'est la base de l'Église. toutes les choses qui se font aussi matériellement dans les locaux aussi. C'est toutes des choses qui se vivent, qui se font. Mais c'est ça la vie de l'Église. Et c'est là que j'aimerais vraiment nous encourager à prendre soin de notre prochain, à prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres, c'est comme créer un filet. Imaginez-vous que chaque fois qu'on prend soin de quelqu'un, c'est comme lui lancer la pelote de laine. Puis ensuite, elle repart plus loin. Et quelque part, il se fait un filet autour de nous et ça va empêcher les personnes de simplement se retirer et sortir du lieu, sortir de ce qu'on est, de cette église qu'on est. Ça ne veut pas dire la prendre au piège du tout, mais ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui se vit. Et je peux apporter quelque chose aussi. Finalement, l'Église, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres? Qu'est-ce que j'ai à donner aux autres? À ceux qui sont autour de moi? Je crois que l'Église a besoin plus que jamais de renforcer ces liens d'amour qui permettent au Saint-Esprit de faire son œuvre. Et ces liens d'amour, ça se vit au quotidien. Ça se vit au quotidien dans les groupes de maison, parce que c'est des endroits où on est appelé à être vrai, à pouvoir ouvrir notre cœur, à pouvoir partager voilà, les réalités de ma vie, et où il y a des choses qui peuvent se passer, parce que quelqu'un aura à cœur de prier pour toi, parce que quelqu'un aura une parole pour toi, ou tu auras une parole pour l'autre qui est dans le besoin. Tu vas pouvoir l'aider aussi concrètement, parce que tu sais, tu connais ses besoins. Et les cellules, c'est encore une partie de l'Église, ces cellules. Mais c'est toute la vie. Moi, quand je vois l'Église, je vois quelque chose de bourdonnant, de bouillonnant, une ruche d'abeilles. Quand vous allez regarder derrière, mes parents, ils avaient des abeilles, puis moi, je n'aimais pas les abeilles. Donc, j'allais simplement regarder au rucher quand ils n'ouvraient pas le rucher, mais il y avait des vitres à l'arrière où on voyait la colonie d'abeilles qui travaillait, puis vous voyez toutes ces abeilles, c'était plein, c'était rempli, quoi. Ça allait dans tous les sens. L'Église, elle a appelé à être ça. Où on ne pense pas à soi-même, on pense à l'autre. On est là pour les autres. Dora, au début du culte, elle disait, elle partageait ces versets, puis elle disait, mais ce qui me parle, c'est ce mot « prenez courage ». C'est vrai que face à la réalité, on peut être déstabilisé, on peut être même baisser les bras et vouloir abandonner. Mais prenez courage. Toutes ces paroles que Christ a données, il a tout accompli pour nous. Aujourd'hui, on peut les vivre, on peut s'en nourrir, on doit s'en nourrir pour pouvoir le partager, le vivre entre nous, autour de nous. La fidélité de Dieu, elle est là. Et on l'a chanté tout à l'heure, ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu. Si l'Église aujourd'hui est debout, ce n'est pas parce qu'elle a réussi à passer son chemin, c'est par la fidélité de Dieu, grâce à la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle et il ne va pas changer, il va rester fidèle. On peut lui faire confiance. Faisons-lui confiance pour l'avenir de l'Église. Faisons-lui confiance dans les relations qu'on a les uns aux autres. J'aimerais nous lancer un défi pour cette semaine. Je me dis, mais pense aux personnes dans l'Église. Pense pendant cette semaine à l'Église. Et si le Seigneur te met quelqu'un à cœur, fais ce qu'il te met à cœur. Peut-être prendre ses nouvelles. Peut-être écris-lui un petit mot. Ou peut-être je ne sais pas quoi. Mais fais ce que le Seigneur te met à cœur. Et restons pas dans nos générations. Hein? On peut penser à des personnes qu'on n'a peut-être plus vues depuis longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Et puis, on a simplement un moment de partage. Mais si c'est conduit par le Saint-Esprit, ce ne sera pas simplement un moment comme ça. Le Saint-Esprit a des projets. Il veut aller plus loin. Soyons pas trop calculateurs. Faisons ce que le Seigneur nous montre faisant ce que le Saint-Esprit met sur notre cœur, et le Seigneur fait le reste. Le Seigneur ajoute. Le Seigneur ajoute. J'aimerais encore prier. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Jésus parce que, oui, tu es venu sur cette terre, Seigneur, parce que tu nous voyais abandonnés, tu nous voyais perdus. Mais Seigneur, en venant sur cette terre, tu voyais cette Église qui allait naître. Tu voyais cette Église qui allait passer les années, toute cette période jusqu'à aujourd'hui et encore plus loin. Tu vois l'Église jusqu'à ton retour. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, ces paroles que tu as données, elles résonnent pour nous. Elles sont là pour nous, Seigneur, pour notre réalité. Et Seigneur, on veut proclamer ta fidélité sur l'Église. On veut proclamer, Seigneur, ton unité dans l'Église. On veut proclamer, Seigneur, ton amour, cet amour qui peut venir que de toi, Seigneur. Que tu nous remplisses de ta vision, qu'on voit, Seigneur, toute l'Église, les gens qui nous entourent, avec tes yeux d'amour. Seigneur, merci pour ces projets qui sont là, ces projets que tu as pour l'Église, parce que tu veux une Église forte, une Église qui soit debout, une Église, Seigneur, qui soit prête pour ton retour, une Église, Seigneur, qui est ton témoin là où tu la places. Seigneur, ce matin, on veut te demander pardon. Pardon pour les fois où on pense à nous, où on pense à nous, à notre Église, à notre bien, à notre fonctionnement, à notre façon d'être, de vivre. Mais Seigneur, nous sommes ton Église. Et Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de toi pour nous guider, pour nous conduire, pour nous relever, pour nous convaincre. Merci de guider nos pas, merci de conduire nos pas. Seigneur, qu'on entre vraiment dans tes projets, dans ta volonté. Et toi, tu fais le reste. Et moi, je te bénis, Seigneur, parce que tu fais le reste. Notre devoir, c'est d'être à ton écoute et de marcher dans tes voies. Seigneur, aiguise nos oreilles, aiguise nos yeux, notre façon de voir les choses. Transforme-nous. Rends-nous de plus en plus à ton image, Seigneur. Que les choses puissent couler en nous, puissent couler de nous, parce qu'elles viennent de toi, Seigneur. Merci de bénir chacun, Seigneur, de remplir chacun de ton esprit, et que dans cette semaine, ton esprit parle à nos cœurs, que ton esprit puisse parler à chacun d'entre nous et nous montrer, Seigneur, là où tu nous veux, où tu nous veux qu'on étende tes cordages, Seigneur, où tu veux qu'on établisse un lien de plus. Merci Seigneur, merci parce qu'on peut compter sur toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.